L'acte de naissance de la technoscience restera l'atomisation d'Hiroshima, symbole même de la puissance monstrueuse que la domination a acquise. Pour la première fois, elle disposait de moyens de destruction sans commune mesure avec ceux utilisés dans le passé. Depuis, le pouvoir de la technoscience n'a cessé de croître, à la mesure de l'empreinte indélébile qu'elle laisse sur tous les terrains qu'elle laboure. En quelques décennies, elle a accéléré la transformation de l'État en appareil de gestion, qui administre les individus comme des choses, et elle a eu des conséquences néfastes beaucoup plus profondes, plus globales et plus durables sur la vie humaine et non humaine que n'en ont eu des formes d'activité antérieures. Dans le monde à l'envers des représentations aliénées, la technoscience semble planer au-dessus de la société, alors qu'elle en est partie intégrante. Elle paraît dotée de pouvoirs surhumains, qui ne découleraient que d'elle-même, à l'image de ceux attribués à Dieu. Si nous avons choisi de continuer l'émission en parlant de la catastrophe de Fukushima, ce n'est pas pour verser dans un discours qui dénoncerait les dérives de la technologie, en oubliant trop souvent à quoi et surtout à qui sert le progrès. Revenons donc sur l'industrie du nucléaire, avec un petit montage réalisé par Basse Intensité, que vous pouvez retrouver en allant sur basseintensitéinternetdown.org, et sur lequel est mis en ligne une émission complète consacrée au nucléaire.
Le nucléaire est assurément la forme d'énergie d'une société donnée. Toujours plus de consommation, de marchandisation, de transport, de technologie, de besoins suscités, dans le seul but d'alimenter un système économique et ceux qui en profitent. Cette boulimie ne peut se concrétiser sans promesse d'énergie durable. Le nucléaire est de celle-là, de celle que l'on nous vante comme pérenne, sûre et surtout incontournable. Il en est de même des alternatives éoliennes, solaires ou autres trouvailles qui, derrière une argumentation écologiste, ont d'autres buts que de fournir cette boulimie. D'offrir une autre réponse à la perpétuation d'une société qui n'a de cesse d'en vouloir plus. Cette opposition entre les pro-nucléaires et les partisans des alternatives se réduisant alors à de pauvres débats d'experts économiques, scientifiques ou politiques, tous unis derrière cette prétention à vouloir fournir autre chose. Douce illusion d'une quête écologique qui ne saurait résister à l'ultime argument que serait la nécessité.
Pour autant, le nucléaire n'est pas une manière de produire de l'énergie comme une autre. Bien plus qu'un simple fournisseur, il induit de nouvelles formes d'organisation et de gestion des populations par l'État, ses auxiliaires et ses annexes. Il entérine encore un peu plus les formes d'organisation sociale, politique et économique existantes. Loin de la simple contre-expertise, le constat est à faire que l'apparition du nucléaire, civil ou militaire, pose de multiples questions quant à ses implications directes et indirectes. En effet, une société nucléarisée, pour exister, a d'absolues nécessités. Celles-ci sont économiques, scientifiques et militaires.
La première d'entre elles est que la mise en place d'une industrie sous-tend évidemment une forme d'organisation économique qui puisse permettre de disposer de main-d'œuvre, l'extraction de l'ensemble des matières premières, d'entreprendre de grands travaux de voirie, de construction, de pouvoir gérer des populations, etc. En bref, la misère et l'exploitation quotidienne. En cela, le nucléaire n'a rien d'exceptionnel.
La question militaire de la société nucléarisée prend tout son sens au vu des débats politiques et scientifiques autour des déchets, du risque et de la gestion de l'irradiation. Et c'est en cela que le nucléaire est spécifique. Les déchets, qu'ils soient enfouis, recyclés dans l'armement ou dans des projets de nouvelle énergie, restent une menace constante dont nul ne sait réellement ce qu'il est possible de faire pour s'en débarrasser ou les gérer durablement. Malgré les quelques accidents dans les centrales, le nucléaire et les risques qu'il induisait furent longtemps cachés, minimisés. Tout comme les risques d'irradiation pour toutes les personnes travaillant dans la mise en place et le maintien de cette industrie. Des gisements aux centrales, de leur construction à leur entretien. Depuis... ces risques n'étaient perçus que d'un point de vue militaire. Les irradiés n'étant alors que des victimes de guerre, et les populations exposées aux radiations dues aux essais de bombes nucléaires, dans le Pacifique, le Sahara, le Punjab ou ailleurs, de simples dommages collatéraux.
L'accident de Tchernobyl fut l'un des tournants dans la politique menée par les gestionnaires du nucléaire. Un temps nié, le risque devenait réalité, palpable par la dimension de la contamination, par l'existence d'humains en zone contaminée, par la gestion d'une survie et le confinement. Loin de calmer leurs ardeurs, les défenseurs du nucléaire mandatèrent une somme de scientifiques afin d'examiner la situation et d'en tirer des conclusions allant dans le sens d'une continuité des programmes nucléaires existants. Bien plus que faire accepter la simple présence du nucléaire, les nouvelles politiques en la matière se sont tournées vers le contrôle des populations exposées. Ces dernières années, les exercices de simulation se sont multipliés. Sous couvert de rassurer des populations potentiellement exposées, ces politiques visent à l'acceptation d'une vie en zone contaminée. Des hordes de scientifiques, de médecins, de militaires sont mobilisés. les uns pour nous expliquer qu'il est possible de survivre et de continuer à vivre dans ces conditions, les autres pour nous faire comprendre, les armes à la main, que le choix n'est laissé à personne. Accepter une longue agonie ou être tué, accepter de continuer à être un des rouages de ce monde qui nous consume ou le quitter. Pas besoin d'aller en Biélorussie. Le projet de l'EPR à Flamanville prévoit l'inondation des marais alentours en vue d'un meilleur confinement des habitants de la région contaminés en cas d'accident. Simple sacrifice humain sur l'autel des choix économiques et politiques.
Le nucléaire ne peut exister sans une plus grande militarisation de nos vies, sans un plus large contrôle de l'État et de ses scientifiques sur notre existence. Il n'existe de critique du nucléaire sans remise en cause de la société qui le produit. Il n'existe pas de lutte contre le nucléaire sans destruction de cette société.
Ceci étant dit, la catastrophe sismique et nucléaire d'une ampleur inédite qui se déroule au Japon nous renseigne une fois de plus sur la manière dont les autorités cherchent à maintenir l'ordre en place dans ce genre de circonstances. Avant 1986, la possibilité d'explosion d'un réacteur nucléaire était une élucubration des opposants au développement des centrales. Après Tchernobyl, le risque est pris en considération et devient un outil de gestion et d'acceptation. La transparence, le contrôle des rejets polluants, le recyclage des déchets, l'administration des accidents, le management des sinistrés deviennent de nouveaux pans du développement économique. Chaque nouvelle catastrophe industrielle ou naturelle sert de prétexte à expérimenter de nouvelles règles de sécurité. On est ainsi passé de la société industrielle à la société du risque, dans laquelle l'État démocratique se présente comme le seul rempart face à la menace et s'assure ainsi la docilité des administrés. Le risque, quelle qu'en soit la cause, est un outil de contrôle des populations permettant d'asseoir une autorité légitime, car démocratique et protectrice.
Une fois la catastrophe arrivée, les experts et les nucléocrates se drapent du masque de la transparence et de l'information en temps réel, tentent de faire croire que l'on peut contrôler l'incontrôlable, que tout redeviendra à la normale avec des doses d'irradiation acceptables, et que l'accident, ce nouveau défi qui leur est lancé, permettra de tirer des leçons pour anticiper la menace et mieux se préparer pour les catastrophes à venir. Le monde et leur laboratoire, nous en sommes les cobayes.
Ceci était un extrait de Fukushima à Alès, la gestion des catastrophes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le Jura Libertaire à la page 5. Pas plus qu'il n'est question de partager l'attitude fataliste dominante dans les milieux de l'écologie radicale qui justifie le repli dans des cénacles ou dans des prétendus refuges à l'abri de l'orage en attendant des jours meilleurs, ou moins pénibles, au lendemain du cataclysme. N'oublions jamais que la domination, même aux époques où elle semble régner sans partage, n'est pas totale. Il existe toujours des chemins, même escarpés, à explorer et des failles à créer. Il ne reste plus qu'à les découvrir et les élargir, à titre individuel et collectif, sans perdre de vue cet objectif, la transformation révolutionnaire de la société.
Ceci était un extrait de la contribution à la critique du catastrophisme que vous pouvez également retrouver dans le Jura Libertaire.